histoire. Aujourd'hui, Who's Next?
On s'attend pas à ça hein, pour Who's Next.
Pas du tout.
On va expliquer pourquoi après.
So one note.
On va entendre Pete Townsend. La voix de Pete.
The last war finally ended with a huge explosion in Japan. Some of the liberated prisoners of war from Burma brought home souvenirs, like shamisen, little banjos with lizard skin resonators. That terrible bomb. All those perfect Japanese gardens, timber houses with paper walls, consumed in the monumental roar of darkness. All those one-stringed musical instruments burning black, those delicate single notes bending. But there is peace there, of course. In the end, all those in pain die quietly in the gentle arms of a shadow. And, as ever, the sun rises.
Oui, on a eu envie de vous faire entendre ça. Alors, personne ne s'attend à ce qu'on fasse entendre cet extrait pour présenter le disque Who's Next. En fait, Who's Next est au départ un projet global pensé par Pete Townsend, le guitariste et compositeur du groupe, qui veut faire à la fois un opéra rock et un film. C'est un projet global, c'est une histoire complètement folle, une histoire de science-fiction qui s'appelle Life Os. Voilà, donc le disque Who's Next devait s'appeler Life Os, la vie à la maison, quoi, hein. Donc il invente une histoire de science-fiction, c'est une histoire en science-fiction. À l'époque, on est en 1970, le monde du rock est nimbé de science-fiction. On adore toutes les histoires de science-fiction, d'Isaac Asimov, etc. Et donc là, on imagine la Terre dans les temps futurs, qui est complètement contaminée par une pollution. D'ailleurs, vous voyez, je veux dire, c'était assez bien vu. Et donc l'air est irrespirable. La Terre est gouvernée par un dictateur, par un ordinateur central. Et les gens sont donc terrés chez eux. Ils sont enfermés chez eux. Ils ne peuvent pas sortir. Mais on leur donne les moyens de voyager par de l'image, par de la musique à profusion. Donc il invente Internet. Townsend, il a déjà vu Internet, vous voyez, il imagine la société actuelle. C'est un visionnaire, hein, Townsend. C'est un véritable sociologue du rock. Et il imagine là, ce monde un peu fou. Et un jour, on entend une note de musique. Et cette note de musique, c'est la note de musique du rock. Et les gens veulent revenir à des siècles en arrière pour réécouter cette musique-là. Et cette musique-là va les libérer de leur chaîne, quoi. Voilà, vous voyez donc. Concept complètement frappé.
On est dans les années 70, c'est ça ?
Là, on est en 70, lorsqu'il invente ce projet-là. Les Who ont commencé en 65. Leur premier disque, c'est en 65 avec My Generation. En 5 ans, vous imaginez à quel point leur musique a bougé. My Generation, c'est ça, quoi. C'est le premier hymne punk. J'espère mourir avant d'être vieux, hein, c'est terrible. Là, c'est le premier hymne punk, mais vous voyez, c'est en 65. Townsend a seulement 19 ans lorsqu'il écrit ça. Mais à cette époque où les Beatles chantent She Love You, Yeah, 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 lui, il chante Ma Génération. C'est-à-dire qu'il est déjà dans une démarche très sociale, contrairement aux autres groupes de cette époque, aux autres groupes anglais. C'est vraiment la patte de Pete Townsend. Il a toujours un regard sociologique par rapport à ce qui se passe dans le rock. Voilà. Il va y avoir une première étape très connue dans l'évolution de leur musique, qui vont être Tommy, qui va être fameux Tommy Who, le premier opéra rock connu qui va se vendre à des millions d'exemplaires, qui va leur permettre de faire une tournée internationale.
Feel me. Touch.
Il y a ce son. Vous voyez cette histoire un peu folle déjà d'un enfant aveugle, muet et sourd qui va devenir un champion de flipper, qui va créer une secte, la secte de flipper qui va être suivie par des adeptes et qui vont se révolter. Enfin bon, des histoires toujours un peu folles dont on reviendra peut-être dans une autre émission. Mais une évolution musicale énorme quoi, hein, entre 1965 et 1969, une évolution et musicale et spirituelle. Donc en 70, lorsque Pete Townshend se lance dans ce projet Life House, c'est un musicien reconnu, il a seulement 25 ans, mais c'est un musicien qui est désormais reconnu par le milieu de la musique tout entier, y compris le milieu classique. C'est un musicien qui est riche. Voilà. Il a de l'argent, il peut se permettre de rentrer en studio, il peut se permettre plein de choses, un peu comme les Beatles, vous voyez, où on rentre en studio alors qu'on n'a rien composé, hein, on loue le studio sans savoir à quel moment est-ce qu'on sort, bon, la maison de disques est derrière et assure. Et là, Pete Townshend, il va avoir une idée complètement folle. Là, c'est pas en studio qu'il rentre, il va rentrer dans un théâtre de Londres qui s'appelle le Vic Young Theatre. C'est un théâtre qui appartient à Brian Epstein, enfin qui appartenait à Brian Epstein, le manager des Beatles, qui avait acheté ce théâtre-là pour y faire du théâtre d'avant-garde, de spectacles underground, etc. Donc les Who vont louer ce théâtre durant 3 mois. Ils vont le louer et en fait, ils jouent le soir. Ils jouent le soir, c'est entrée libre. Les spectateurs viennent. L'idée, là, c'est qu'on compose l'album avec l'énergie des spectateurs, et c'est ce que renvoient les spectateurs qui va créer la musique. Donc à la fois on joue, à la fois on improvise. Et pour vous donner un peu une idée de l'ambiance qui règne, on va vous faire entendre non pas une composition, mais une reprise des Who qui est enregistrée lors de ces séances, qui s'appelle Baby Don't You Do It, qui est un grand morceau de Holland et Dozer. Mais c'est pour montrer le niveau musical des Who à cette époque. Vous avez notamment une rythmique incroyable de Keith Moon. Enfin, il faut vraiment écouter ça. Là, c'est un cadeau, hein, on vous fait entendre ça. C'est un bonus. Mais voilà, voilà un peu ce qui se passe lors de la création de ce disque un peu fou. Donc, on est au Vic Theatre. À la fois, les Who composent. Et à la fois, de temps en temps, ils reprennent des morceaux. Donc là, Baby, Don't You Do It, c'est pour vous.
Myself.
rock'n'roll. Ah ouais, c'est magnifique. Hein, voilà. C'est incroyable, enfin, notamment la rythmique de Keith Moon et de John Entwistle.
Et le son, surtout, comment on arrive à sortir un son à cette époque-là, alors, c'est énorme, quoi. On est en live, ça sonne grave quand même.
Alors, ça sonne grave et tu as raison de dire ça parce que justement, moi je trouve que Who's Next est un disque qui vieillit très très bien parce que le son est superbe. Voilà, c'est un son... qui va bénéficier des progrès techniques de l'époque. Donc c'est un disque enregistré en 8 pistes seulement. Mais il est à peine enregistré en 8 pistes, mais il faut quand même savoir que le Sgt Pepper's des Beatles est enregistré à peine en 4 pistes. Hein.
Ah oui.
Voilà. Donc 8 pistes à l'époque, c'est bien.
Oui, c'est une très bonne performance. Ça coûtait très 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 cher aussi à l'époque. Hein. Faut se le... voilà. 8 pistes, c'était pas réduit dans une petite console, c'était très grand.
Le son, en fait, en tout cas, est superbe, en effet. Alors, je vais continuer à expliquer. Donc, le projet de Townsend est un projet complètement fou, si bien qu'à un moment donné, aucun des musiciens du groupe n'arrive à comprendre là où il veut en venir. Et les producteurs du groupe, notamment Keith Lambert et Chris Ostham, qui sont les deux producteurs, managers du groupe, eux non plus, n'y comprennent strictement plus rien. On part aux États-Unis pour enregistrer à New York. Vu que personne n'y comprend rien, ça devient un lieu de débauche. Tout le monde boit, fume, prend autre chose, etc. Donc, à un moment donné, plus personne ne fait de musique. Townsend se retrouve vraiment en dépression. Hein. Il avouera après avoir voulu à New York se suicider, en comprenant que personne ne comprend rien à son projet, qui est un projet grandiose. Hein. Donc, il arrivera à mettre en œuvre seulement en 99. Voilà. Il va pouvoir réunir l'ensemble... et en faire un disque en 1999, il va en faire un disque et un concert. Bon. Mais à cette époque-là, personne n'y comprend rien. Donc à un moment donné, en désespoir de toute cause, on rentre à Londres. On va voir le producteur de l'époque, un des grands producteurs de l'époque, qui s'appelle Glyn Jones. Glyn Jones qui va prendre le métier avec George Martin, qui va être ingénieur du son de George Martin, qui va enregistrer les Beatles sur Let It Be, par exemple. Bon, voilà. Qui va enregistrer les Stones, qui va enregistrer le fameux Led Zeppelin 2, c'est lui qui fait l'enregistrement du Led Zeppelin 2. Donc on va le voir en tant que producteur. Voilà. Et là, il comprend que personne ne comprend rien à l'histoire de Townsend. Il va décider, alors que Townsend a écrit un double album, Il va décider de réduire ça en fait un seul disque et de ne pas avoir une suite logique dans l'histoire, puisque il estime que chaque chanson en elle-même a un propos tout à fait intéressant. Et donc d'un double album, il va en faire un simple album qui va s'appeler Who's Next. Donc le producteur, c'est vraiment le directeur artistique, c'est lui qui
impose les choix, en gros.
C'est lui qui impose les choix, c'est lui qui fixe l'ordre des chansons, c'est lui qui propose une poche, enfin qui donne un accord à la pochette, c'est lui qui fait aussi les arrangements. Bon, bien que lorsqu'on travaille avec Townsend...
Tu nous raconteras quand même une anecdote sur la pochette d'ailleurs de Who's Next.
Ouais, là je vais raconter une anecdote là, par rapport à la pochette. Il est clair que lorsqu'on travaille avec Townsend, le patron c'est lui, c'est Townsend. Hein. D'ailleurs, Glyn Jones dira qu'il était plus un coproducteur qu'un producteur. À part entière. Mais c'est Glyn Jones qui va réussir à tirer quelque chose de toute cette matière et d'en faire un des disques qui va être l'un des plus grands disques de rock au monde de l'histoire. Hein, vous savez, il y a un fameux palmarès de Rolling Stone, du magazine Rolling Stone, des 500 plus grands disques de rock. Et Who's Next arrive en 28e place. Hein. Who's Next va être numéro 1 à sa sortie au Royaume-Uni en 1971. Il sort au Royaume-Uni en août 1971. Ça va être l'unique disque des Who qui va être numéro 1. Voilà. Il va être numéro 4 aux USA. Voilà. Donc, on va commencer par vous faire entendre quelque chose. C'est-à-dire que ce qu'il faut savoir avec Pete Townsend, et qui le rend très émouvant, c'est que Pete Townsend, depuis 1965, dès l'instant où il a eu un peu de sous, il va se construire un home studio. Voyez, aujourd'hui, tout le monde a des home studios. Mais lui, il va faire le premier home studio à l'époque dans son appartement, alors qu'il est tout jeune. Il va s'acheter un magnéto 4 pistes, une petite table de mixage, etc. Et il va commencer à enregistrer des maquettes tout seul chez lui. Bon. Et au fur et à mesure, il va apporter toujours au groupe des maquettes très très bien construites, dans lesquelles, en général, il joue de tous les instruments. Bon. Mais là, en l'occurrence, par rapport au projet Who's Next, qui était au départ le projet Life House, il est allé bien au-delà de ça. C'est-à-dire qu'il va enregistrer, il voulait que ce soit un projet musical extraordinaire avec des violons classiques, etc. Et donc, le morceau qui ouvre le disque Baba O'Reilly, je vais vous faire entendre à l'origine ce que c'était, ce qu'il avait fait entendre au groupe. C'est très surprenant, vous allez voir. Voilà, en fait, à l'origine, il avait composé ça pour un orchestre classique. C'est lui qui orchestre, voilà. C'est superbe. On ne s'attend pas à ça. Lorsqu'on connaît le disque, lorsque j'ai découvert la démo, j'étais très ému, quoi.
Est-ce qu'on peut... tu pourrais nous dire à peu près... voilà, ils ont rejoint deux albums en un. Il y avait combien de titres à la base ?
Oh ben, au départ, je ne peux pas te dire exactement parce que là, je n'ai pas le nombre de chansons sous les yeux. Je crois qu'il y avait 24 chansons.
D'accord.
Et sur Who's Next, il y en a uniquement 9.
Voilà. D'accord.
Voilà. Okay. Pour que tu aies une idée. Et le début, One Note, c'était ce qui devait introduire le disque.
Donc ce thème, il est quand même très connu, vous devez le reconnaître. Hein. Même si vous ne connaissez pas les Who, vous connaissez forcément ce thème.
Voilà. Le thème est très connu. Il va être repris par les experts. Mais on va vous faire entendre ce que c'est devenu.
Exactement.
Alors, avant de vous faire entendre ce que c'est devenu, il faut quand même savoir que Who's Next, c'est un des premiers disques de rock dans lequel il y a une utilisation du synthétiseur de façon extrêmement intéressante. C'est-à-dire que les synthétiseurs arrivent dès les années 66-67, mais en gros, personne ne sait quoi en faire, quoi. Hein, personne ne sait quoi en faire. Il va y avoir un grand... comment dire, initiateur du synthétiseur qui va être Keith Emerson, de Emerson, Lake & Palmer. Mais Pete Townshend va être un grand initiateur de l'utilisation du synthétiseur.
Bien avant Jean-Michel Jarre, en fait.
Ah oui, bien avant. Mais en fait, lui, il va l'utiliser là pour faire des boucles, vous voyez, je veux dire. Aujourd'hui, là, ce qui se fera avec un séquenceur. Sauf qu'à l'époque, on ne peut pas faire une boucle. C'est réellement joué. C'est-à-dire que l'intro, vous allez voir, elle est jouée intégralement par Pete Townshend sur un synthétiseur monodique, c'est-à-dire qu'on peut faire qu'une note à la fois. Quoi. En fait, c'est un synthétiseur qui s'appelle le synthétiseur ARP 2600. Écoutez ça. C'est joué. Tout est joué. L'idée était de mettre au départ les données des personnes, les profils des personnes dans un ordinateur. Donc l'ordinateur ferait une musique pour chaque personne. Vous voyez, c'est ça qu'il invente dans Life House. Intéressant. Là, il y a l'entrée du piano. Là, c'est Pete Townshend au piano aussi. L'entrée de Keith Moon comme un troupeau de bisons.
Non, vous n'êtes pas sur TF1, vous rassurez-vous, hein, c'est bien les Who.
Et enfin, le chant de Roger Daltrey comme un lion qui rugit, c'est magnifique.
To prove I'm right, I don't need to be forgiven.
Là, je suis très ému là par cette chanson, Baba
O'Reilly,
notamment lorsqu'il parle de Teenage Wasteland. Le teenage de Westland, alors il y a plusieurs traductions possibles, mais une traduction c'est le terrain vague des illusions adolescentes. C'est le terrain vague de l'adolescence perdue.
Il est philosophe aussi en même temps.
C'est un poète à part entière, Pete Townsend. C'est un poète à part entière. Il a écrit des paroles sublimes, vraiment très très belles. On ne comprend pas toujours tout, mais voilà, il est un peu incompris, quoi, cet homme. Il est torturé, c'est... Bon, lorsqu'on va connaître sa vie après, dans les années 90-2000, qui va raconter sa vie, il a une vie assez terrible, hein. C'est une vie assez terrible et sordide, notamment durant son enfance, hein, puisqu'il va subir des choses assez douloureuses, graves, etc. Mais je trouve que c'est... paroles vraiment sont les paroles du sociologue du rock. Ouais. Et dans cette chanson, il dit des choses par rapport à sa génération qui sont vraiment superbes. Alors, ce qui est vraiment très intéressant, c'est qu'a priori, cette chanson est un bout de son opéra.
Bah oui.
Mais vous voyez, on prend la chanson comme ça, on la retire de l'histoire, elle signifie quand même quelque chose.
Ça peut être un chapitre. Ça pourrait être comme un chapitre du
l'histoire. Oui, bien sûr. Ouais. Là, ça pourrait être un chapitre de l'histoire. Voilà. Donc, il raconte, là, c'est l'ouverture de son opéra. Il raconte un monde dans lequel la vie est devenue impossible, où les gens doivent survivre pour pouvoir s'en sortir, etc. Qui est magnifiquement chanté par Troget Daltrey, hein, c'est un lion, c'est quelle voix. Et sa voix a mûri lorsqu'il arrive à Who's Next. Il est devenu vraiment un interprète. C'est-à-dire que jusqu'alors, c'était le chanteur de rock qui hurlait sur scène. Là, il met vraiment des émotions dans sa voix. Il a réussi à travailler sa voix à partir de Who's Next. Ça devient un sublime interprète, quoi. D'ailleurs, il va ensuite faire aussi du cinéma, hein. Je pense que le travail que va lui faire Pete Townsend va l'aider ensuite à développer en fait une autre carrière, notamment au cinéma. Il va vraiment devenir un interprète.
Voilà. Et justement, Pete Townsend, il chante aussi, puisque sur les démos, il fait tout.
Ah ouais.
Justement, il chante, et donc c'est ça qui est intéressant de voir les versions, on va dire, de base, originales, j'ai envie de dire, imaginées, interprétées par Pete Townsend, et derrière, quand il l'emmène au groupe, et ce qu'en fait le groupe.
C'est voilà. Intéressant. Donc là, par exemple, on va vous faire entendre quelque chose. C'est une chanson de l'album qui s'appelle Love Aim for Keeping, qui sur l'album est une version très acoustique, très folk. On va vous faire entendre. D'abord, la version démo de Pete Townsend, ce qui l'amène au groupe, c'est lui qui joue de tous les instruments et qui chante. Écoutez ça. Vous voyez, c'est déjà une version très aboutie. Hein. D'ailleurs, on ne pense pas qu'il est tout seul à jouer. Enfin, c'est vraiment superbe. Mais voilà donc ce que le groupe a décidé d'en faire. Et ce qu'a aussi décidé d'en faire Glyn Johns, puisqu'il était producteur. Voilà. C'est une autre version, très belle, mais très différente. Avec la voix de Roger Daltrey. vous fera entendre d'autres versions, démos des chansons, parce qu'elles sont toutes plus belles les unes que les autres. Alors, on m'a posé une question par rapport à la pochette, la fameuse histoire de cette pochette.
Tout à fait, c'est moi qui te l'ai posée.
Alors, cette pochette, elle représente quatre hommes, enfin les quatre membres des Who, qui viennent de se soulager visiblement sur un bloc de béton au milieu de nulle part. Bon, voilà. C'est vrai que la photo est assez impressionnante. Alors, cette photo, elle a été prise sur un terril. Vous savez, un terril, c'est un espèce de gros tas de charbon. Et pour tenir les morceaux de charbon, il y avait différents blocs de béton qui avaient été mis ici et là. Et en fait, le groupe était à ce moment-là en tournée. Ils reviennent de concert et ils le trouvent. Ce terril et cette masse de béton dessus, et ils décident de s'arrêter parce qu'ils disent tiens, ça ressemble à 2001 Odyssée de l'espace. Il y a une scène dans en fait, 2001 l'Odyssée de l'espace sur la Lune qui ressemble à ça. Alors là, je vous l'ai dit, à l'époque, ils sont tous férus de science-fiction. En plus, Kubrick vient de sortir le film en 68, c'est le grand film. Bon, et Pete Townshend avait des projets avec Kubrick, c'est-à-dire que d'une part, il avait envie que Stanley Kubrick réalise Tommy, hein, puisque déjà à l'époque on veut en faire un film. En fait, le film ne sera fait qu'en 1974 et il sera fait par Ken Russell, mais Pete Townshend aurait voulu que ce soit Stanley Kubrick qui fasse Tommy, qui va refuser. Ensuite, Stanley Kubrick est en train de tourner Orange Mécanique. Pete Townshend le sait. Il aurait voulu faire la musique de film Orange Mécanique. Moi, j'aurais vraiment aimé. Hein. parce que voilà. Mais il se trouve que bon, voilà, Kubrick refuse. Bref, Townshend, il est fâché un peu avec Kubrick. Donc, c'est lui qui a l'idée d'aller pisser sur le bloc de béton. C'était sa façon à eux de dire le mot de 5 lettres à Stanley Kubrick, voilà.
Voilà, l'histoire de cette pochette.
C'est l'histoire de cette pochette assez étrange qu'on ne comprend pas, voilà. Et d'ailleurs, à ce qui paraît, personne n'arrivait à se soulager, donc en fait, là, c'est pas de l'urine qu'il y a sur le bloc, mais c'est un peu d'eau qu'ils avaient mis, voilà. Voilà, ça c'est par rapport à l'histoire de cette pochette, qui est quand même une pochette historique, hein, qui a en fait marqué aussi.
Qui a marqué son temps, exactement.
Qui a marqué son temps. Alors, on va revenir à la musique. Il y a un morceau qui est très beau, très connu dans le disque, qui va être repris par plein de groupes, qui s'appelle Behind Blue Eyes, hein, qui signifie derrière des yeux bleus. C'est une chanson d'amour tragique de Pete Townshend. Donc Pete Townshend, tout au long de sa vie, va passer par des phases dépressives. Il va arrêter l'alcool, il va reprendre l'alcool, il va arrêter la drogue, il va reprendre la drogue. Il passe en permanence d'un état euphorique à un état dépressif. Donc là, c'est vraiment le chanteur amoureux transi qui parle d'un amour impossible, et il dit que cet amour est vengeance, quoi. Bon, voilà. Cette chanson est magnifiquement chantée par Roger Daltrey, dont l'histoire est une histoire tragique lui aussi. C'est-à-dire que lui, c'est le héros de la classe ouvrière. Hein. Roger Daltrey, c'est une petite frappe, étant jeune. C'est un véritable
c'est un caïd voyou. Du quartier, quoi.
Ah, c'est vraiment un caïd. Hein. C'est un caïd des quartiers. C'est quelqu'un qui fait peur à tout le monde. C'est quelqu'un qui va aller à l'usine très jeune. Il va construire sa première guitare tout seul à l'usine. Il va construire une guitare en disant « Je partirai de l'usine et j'y retournerai plus jamais. » Voilà. C'est lui qui va créer les Who. Hein. C'est lui qui crée le groupe. Townshend rentre après avec John Entwistle. Townshend va être le compositeur, mais c'est Roger Daltrey qui est le leader historique du groupe, quoi. Et Daltrey s'empare de la chanson de Pete Townshend et l'interprète de façon magnifique. Sauf que là, on a fait un autre choix. On va vous faire entendre la version démo de Pete Townshend, tout seul à la guitare classique. Il la joue la guitare classique. Et à un moment donné, on va arrêter ça et on vous passera la version de Sheryl Crow. Sheryl Crow, chanteuse américaine, donc qui a fait elle aussi une très belle version de Behind Blue Eyes. C'est pour vous montrer que toutes les chansons de ce disque vont être reprises par une multitude de chanteurs. Voilà. Donc la version d'abord démo très belle de Pete Townshend qui chante. Derrière les yeux bleus. C'est vraiment très beau, hein.
Ah, c'est poétique, effectivement.
Ah non, mais c'est les paroles de Townshend sont toujours superbes. En fait, il parle de lui. Hein.
C'est un miroir.
Ah ouais, c'est un miroir. Alors, par rapport à Pete Townshend, on sait tous que c'est un grand compositeur. Ça, c'est clair, tout s'est accepté. Mais par rapport à son côté musicien, là, c'est un multi-instrumentiste. Il a appris la musique dans son enfance. Il a des parents musiciens. Enfin, il se trouve qu'il a une mère qui est chanteuse et un père qui est saxophoniste. Son père va jouer dans un grand orchestre de big band. Donc, il va être très souvent absent avec sa mère. Ils sont en fait tous les deux musiciens professionnels. Donc, il y aura un piano à la maison sur lequel va pianoter. Très tôt Pete Townshend, mais personne ne va lui apprendre la musique. Il va être inscrit à la fanfare avec son ami John Entwistle. Hein, John Entwistle et lui vont être inscrits tous les deux à la fanfare. John Entwistle est d'ailleurs un excellent trompettiste. Il joue aussi du trombone et du cor. Donc il va apprendre la musique à la fanfare. Il ne va pas apprendre à lire la musique. Il ne sait pas lire la musique. Il apprendra ça longtemps après. Et il va se mettre à 12 ans à la guitare. et il va se mettre à la guitare avec, il va apprendre la guitare avec un guitariste de flamenco qui habite son immeuble. C'est lui qui va lui donner des cours de guitare. Et je pense que ce style va vraiment l'influencer. C'est-à-dire que Pete Townshend, selon moi, est l'un des plus grands guitaristes rythmiques de l'histoire du rock. Hein. Ça fait pas un pli. Parce qu'on a beaucoup parlé là, par rapport à son style, à ce qu'il savait faire ou pas faire. C'est vrai que Léo, il est tout seul sur scène, c'est lui qui remplit bien souvent. Donc il a un style qui part du solo à la rythmique en permanence. Il est vrai aussi qu'il a la malchance d'avoir un batteur et un bassiste qui ne tiennent pas le rythme, qui jouent lead. Tous les deux,
ouais, ouais.
C'est lui qui tient le rythme sur scène dans le groupe. Donc, ce qui est pas,
évident.
Voilà, ce qui est pas évident, là, ce qui lui permet pas de s'échapper, de faire lui ce qu'il a envie. Oui, quoi. Mais là, on a eu envie de vous faire entendre, Pete Townshend tout seul à la guitare, acoustique. C'est une guitare Gibson Folk. Il est sur scène en 2000. Vous allez l'entendre tout seul avec une guitare. On a l'impression qu'il y a un orchestre entier qui joue. C'est exceptionnel. Donc là, c'est pas un morceau de Who's Next, c'est un morceau de Quadrophenia qui s'appelle Drone. Et voilà, c'est un pur moment de magique qui dure 5 minutes. On vous laisse écouter ça jusqu'au bout.
This is a tune from Quadrophenia.
Même au plus grand, ça arrive.
Ouais. Il a oublié les paroles.
There are men high up there fishing. Haven't seen quite enough of the world.
Il a 60 ans là lorsqu'il joue.
Seen the sign of my hero. And I'm still diving down for pearls. Let me flow into the ocean. Let me get back to the sea. Let me be stormy, let me be calm. Let the tide in, I want it to rush over me. You know I wanna drown. I am not the actor. This can't be the scene. But I am in the water. As far as I can see. Drown, 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 drown.
calling other names, rippling over the canyon, and I'm boiling in the tank. Let me flow into the ocean, let me get back to the sea. Let me be stormy and let me be calm. Let the tide in, I want it to rush over me. Cause you know I wanna drown. I wanna drown, 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 yeah. Drown in your sweet, sweet love.
Voilà, pour moi c'est un immense musicien, hein. Je me fous de savoir s'il est technique ou pas. Il y a un univers là incroyable.
Il se passe quelque chose, de toute façon, quoi qu'il fasse, pour moi il se passe quelque chose, que ce soit au clavier, à la guitare, à la voix, il chante magnifiquement bien aussi, il faut arrêter.
Il se passe toujours quelque chose avec lui, enfin voilà, moi c'est ce que je crois. Alors lui-même dira, parce qu'il fait partie de ces jeune guitariste en Angleterre en 66 qui voyait arriver Jimi Hendrix. Il va être un ami intime de Jimi Hendrix. Et d'ailleurs, il va dire que lorsque Jimi Hendrix est arrivé, il a raccroché sa guitare. Il a dit bon, mais c'est fini.
Il y en a beaucoup qui ont fait ça.
C'est fini, je ne joue plus. Mais il va développer un style, justement, un véritable univers. Donc, c'est lui qui, par exemple, invente le power chord, taper sur les cordes. Il va beaucoup. Jouer du Larsen aussi. Bon, c'est pas lui qui invente ça, puisque a priori, ça serait John Lennon qui inventerait ça là, pour les Beatles. Je vous ferai entendre dans quel morceau il invente ça en 64, hein, et c'est par hasard qu'il invente ça. Voilà. Ouais. Mais moi, je trouve qu'il développe vraiment un style à lui, un univers à lui. Voilà,
oui, il aurait pu tout à fait avoir une carrière solo, ce monsieur, hein, pour moi. Hein. Après,
pour moi, c'est un guitar hero. Il fait partie des guitar héros, bien que les puristes disent que bon, voilà, c'est pas terrible au niveau technique. Moi, je m'en fous. Je trouve que c'est un univers exceptionnel. Voilà.
Bah, prenez les lives d'Hendrix, tout n'est pas parfait. Hein. Voilà. Ouais. Donc, bon, tout est relatif.
On va finir par le morceau du disque. Alors, on ne vous a pas fait entendre toutes les chansons. Chaque chanson mériterait de l'être, mais bon. On va finir avec le morceau du disque. Le péplum du disque s'appelle Won't Get Full Again. Alors, cette chanson qui signifie nous ne nous ferons plus avoir, quoi. Hein. Alors, elle a été reprise parce qu'elle est sortie de son contexte par rapport à Lifehouse. Et elle va devenir un véritable chant révolutionnaire. Bon, on est en 71, c'est l'après 68 quand même. Les Who sont quand même un groupe très marqué politiquement. Très très marqué politiquement. Townsend, dans sa jeunesse, va être un militant de la paix, anti-nucléaire. Roger Daltrey, qui vient du milieu ouvrier, hein, c'est un fils de la classe ouvrière, va être toute sa vie membre du parti travailliste anglais, il l'est toujours, mais dans la branche à gauche, y compris lorsqu'il va être très riche, il va revendiquer ça, enfin voilà, de façon très forte. Donc là, c'est un groupe qui a une fibre sociale très importante. Hein. C'est un des premiers groupes anglais qui va venir jouer à la fête de l'UMA en 1972. D'ailleurs, il y a des images sur Internet. C'est eux qui vont faire péter tous les plombs d'une moitié de la scène Saint-Denis. Non, c'est authentique. Hein. Le concert va être arrêté à l'époque. Ouais. Moi, j'y étais pas.
Ouais. Voilà. On sent une pointe de tristesse.
Ah ben oui, là, j'aurais aimé y être. Quoi. J'aurais aimé y être. Là, j'étais trop jeune.
Donc, ils ont fait péter les plombs, le truc.
Donc, cette chanson a été prise comme étant une chanson révolutionnaire. Hein. Notamment... le final qui dit va voir le nouveau patron, il ne diffère en rien de l'ancien patron.
D'accord. Hein,
voilà. Donc là, c'est une chanson qui appelle à la révolte en disant attendez rien des autres, prenez-vous en main, quoi. Hein, qui commence en disant nous ne cesserons de nous battre dans les rues avec nos enfants à nos pieds. Hein, voilà. Mais c'est une chanson qu'il faut remettre dans le contexte de Life OS. À un moment donné, les gens se révoltent dans l'histoire contre cette espèce d'ordinateur central qui régente tout. Enfin bon, voilà. Mais voilà, elle a été enlevée de son contexte de l'histoire et malgré tout, elle signifie quelque chose. Voilà, hein. Donc c'est encore une fois Glenn Jones qui a décidé d'en faire une chanson à part. Il a adoré cette chanson. Donc pareil que Baba O'Reilly, elle commence par un thème qui a été travaillé au synthétiseur par Pete Townshend. Et on va vous faire entendre la version démo. Ouais. Qui a été présentée au groupe parce qu'elle est déjà superbe. Quoi. C'est une version qui est superbe. On va vous faire entendre et on finira sur le final très connu de Won't Get Full Again avec l'entrée, notamment l'entrée de batterie de... de Keith Moon.
De Keith Moon, pardon.
L'entrée voilà. De batterie de Keith Moon. Donc là, c'est la version démo que Pete Townshend fait entendre au groupe et à Glenn Jones. Quoi.
Il l'a fait tout seul dans son studio. Hein.
Tout seul dans son studio. C'est enregistré sur un 4 pistes. C'est lui qui fait toutes les voix, tout est...
Énorme.
Ouais, c'est super. Parce que c'est déjà très émouvant. C'est très très émouvant. Ben, c'est pas aussi rapide. Mais il y a vraiment tout, quoi. Il y a notamment plein de guitares. Je crois qu'il y a 4 guitares qui jouent. Vous allez voir. C'est lui qui chante. C'est clair que c'est pas Keith Moon qui joue la batterie, mais quand même, il lui laisse la place pour qu'il puisse faire quelque chose. Il le composait en pensant à Keith Moon. Hein. Et là on va vous mettre le final de Who's Next, de Won't Get Full Again, une merveille. Alors sur scène à ce moment-là, il y avait des projecteurs laser qui tournaient. Le groupe était dans l'obscurité derrière les lasers. C'est le même scénario à chaque fois en concert, encore aujourd'hui. Il y a la même émotion. Mais c'est vraiment très beau ce qu'il joue au synthétiseur. En fait, ça passe par un orgamon. Hein. C'est un orgamon qui est branché sur un synthétiseur.
Ah, les mecs, n'hésitez pas à trifouiller déjà.
Ah ouais, là, il trifouillait. C'était vraiment de l'artisanat. Hein.
Ouais.
Mais tout est joué, hein. C'est pareil. Il n'y a pas de boucle. Hein. Et l'entrée de batterie de Keith Moon. Là aussi, c'est un troupeau de bisons. Hein. Et la voix de Roger Daltrey. Ah. Ça que le rock est grand.